Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 25 octobre 89.
Qu'est-ce qui m'oblige de poser une source de l'unité dans la diversité pour l'induction de la substance? Est-ce que l'on ne peut pas dire que homme est en puissance par rapport à l'exister de pierre qui l'individualise, comme la matière est en puissance par rapport à la forme? Autrement dit, vous diriez tout simplement que l'homme est en puissance par rapport à l'exister, ce qui est faux. En puissance par rapport à l'exister, oui, d'une certaine matière, la nature, mais pas du tout de la même façon que la distinction nature-forme et nature-matière. Nature-forme et nature-matière sont du reste eux-mêmes des principes. Tandis qu'homme, substance seconde, est saisi comme un attribut. Faire attention à l'analogie, hein, elle n'est pas la même. Homme est saisi comme une nature déterminée qui a un mode universel dans mon intelligence et qui est autre chose que l'exister que je saisis dans son individualité. Alors, à la fois, l'homme détermine l'exister et l'exister actue l'homme. Donc c'est le rapport détermination et le rapport exister-acte. Donc ce n'est plus le même rapport que nature-matière et nature-forme. Première remarque. Deuxièmement, je pars du jugement d'existence qui possède une unité. Pas oublier ça. Si je ne partais pas du jugement d'existence, mon induction ne pourrait pas se faire. Oui. Je ne pars pas de homme et pierre. Je pars du jugement d'existence sur pierre et je découvre les diverses déterminations. Pierre comme sujet de toutes les autres déterminations. Pierre est homme. Et j'essaie de comprendre comment il y a une unité au-delà de homme et de ce sujet Pierre. Substance première, substance seconde. Vous voyez ? Donc l'unité n'est pas quelque chose que l'intelligence porte en elle comme une exigence a priori, ce qui semblerait, selon l'objection. L'unité est à partir du jugement d'existence. Ceci est l'unité contemporaine à l'être. Donc ceci implique une unité. Et ceci est, c'est pierre dans son exister. Or, descriptivement, je saisis pierre comme sujet de tous les autres attributs, comme sujet de homme. Pierre est un homme. Pierre a telle qualité. Pierre a telle quantité. Comme sujet de toutes ces déterminations. Donc, il est en puissance, toutes ces déterminations. Il existe. Et homme est la détermination la plus forte, la plus essentielle. Donc, ça se ramène à ces deux déterminations, homme et pierre, comme substance première, c'est-à-dire comme sujet. Et c'est parce que je le prends comme sujet qui existe, et homme comme détermination, que je suis obligé de dépasser cet aspect de détermination, de signification dans homme et de sujet dans pierre. ce qu'Aristote à propos de A, B, A. Il y a une unité qui fait l'unité. Il y a quelque chose, un principe qui fait l'unité. Vous voyez, la question là part de qu'est-ce qui m'oblige de poser une source de l'unité. L'unité existe, je la constate, et je saisis une dualité. Il faut donc quelque chose qui dépasse cette dualité et qui répond à cette unité. Le Pierre comme sujet n'explique pas l'unité qui existe dans Pierre existe. Et homme n'explique pas l'unité dans Pierre existe. Homme explique la détermination de Pierre et Pierre explique ce sujet complexe qui reçoit toutes les déterminations. Qu'à réfléchir en reprenant les prédicaments sur substance première, substance seconde. S'il y a substance première, substance seconde, c'est justement qu'il y a quelque chose qui explique l'au-delà de la substance première et de la substance seconde. Il y a un ordre dans substance première, substance seconde. Et qu'est-ce qui fait cet ordre ? Il y a quelque chose qui est antérieur au point de vue de l'être et qui est demandé par le jugement d'existence. Autre question, en raison de quoi n'est-il pas nécessaire de poser une médiation entre substance et ses diverses déterminations ? Alors que s'il faut poser les puissances pour rendre compte de la diversité des opérations vitales par rapport à l'âme, principe d'unité. Je reprends pour que vous voyez bien. En raison de quoi n'est-il pas nécessaire de poser une médiation entre la substance et les diverses déterminations, alors qu'il faut poser les puissances pour rendre compte de la diversité des opérations. Oui. Quand il s'agit de la substance, elle est source d'unité et source de toutes les déterminations, ce que nous allons voir. Tandis que quand il s'agit de l'âme, on pose intermédiaire, voyez. Je découvre la substance comme principe d'unité de l'être, qui s'oppose à la qualité, du moins, qui se distingue de la qualité, de la quantité, même de la substance première et de la substance seconde. C'est un au-delà, la substance comme principe. Comme cause. Cause selon la forme de ce qui est. Vous voyez ? C'est ça qui exige et qui commande l'induction. Hein. Toujours le jugement d'existence. S'il n'y a pas le jugement d'existence, je ne comprends pas l'induction. C'est ce qui est qui fait l'unité dans l'ordre de l'exister, qui m'oblige de dépasser la substance première et la substance seconde. Dépassement. Et le dépassement de tous les autres. Quand je découvre la substance, je la découvre comme source d'être, comme source de toutes les déterminations, qualité, quantité, relation, ainsi de suite. Et elle est source immédiate de toutes ces déterminations. Tandis que quand je découvre l'âme, distincte du corps, je l'induis à partir de la diversité des opérations induite à partir de cette diversité des opérations. Et je suis obligé, quand il s'agit d'expliquer l'intelligere, la pensée, la nutrition, de poser des facultés, des puissances. C'est que je n'en pose pas du côté de la substance. Eh bien, les deux grandes inductions, celle qui me fait découvrir l'âme, celle qui me fait découvrir la substance, il y a ceci de très particulier, que quand je découvre la substance, principe, cause, selon la forme de ce qui est. Quand je découvre l'âme, je la découvre comme principe, cause, selon la forme du vivant. Là, c'est ce qui est, là, le vivant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Là, la substance est un principe plus radical, puisque c'est au niveau de ce qui est. L'âme est source du vivant dans toutes ses opérations vitales. Et je vous disais hier, parce que les opérations vitales sont immanentes, et une immanence plus ou moins profonde, elles exigent un principe propre, et le principe radical qui est l'âme ne suffit pas. Tandis que la substance, elle est à la fois principe radical et principe propre. Alors, pourquoi l'âme ne peut pas être principe radical et principe propre? Et pourquoi la substance peut être principe radical et principe propre? Vous voyez le problème? J'espère. Je ne pose pas entre la substance et la qualité un métaxu, un intermédiaire, qui serait source propre de la qualité. Tandis que je pose une puissance, principe propre de l'opération de la nutrition. Ou principe propre de ma pensée, puisque maintenant je pense. Vous voyez bien le problème, hein, puisque ce problème avait été posé en effet l'année dernière. Et c'est important de saisir ça. C'est pas commode, mais c'est important. Je comprends très bien. Il faut soulever le problème. J'espère que vous le voyez bien, tous. Je le répète encore, pour que vous voyez bien le problème. Parce que si on ne voit pas la question, on ne voit pas la solution. Donc il faut s'agir de bien comprendre le problème. Quand j'induis la substance, et cette année-ci, nous l'avons induite à partir de substance première, substance seconde. Et nous l'avons induite à cause, toujours, du principe « ceci est », jugement d'existence. Pierre existe. Bon, ça, c'est donné directement. Pierre existe, ceci est. Or, Pierre, je le connais d'abord comme celui qui prend toutes les déterminations. Pierre est intelligent, Pierre a telle taille, Pierre, je fais l'état civil de Pierre. Carte de visite. Quand vous faites la carte de visite de Pierre, vous mettez ses yeux, vous mettez s'il a un défaut sur le nez, vous mettez qu'il a un défaut particulier, caractéristique. Parce que comme ça, on pourra le reconnaître si jamais il commet un mauvais coup, carte de visite indique et tout. Bon. Il y a toutes les déterminations sur Pierre. Et je dis toutes les déterminations, c'est les 10 prédicaments. c'est la carte de visite métaphysique. Oh, même pas, philosophique, disons. Pierre est substance première, il est sujet. C'est vrai, sujet de toutes les déterminations. Qualité, quantité, relation, tout ça. Ça, je le décris. Je saisis tout de suite en Pierre. Et je vois que ces déterminations se ramènent toutes à ce qu'on appelle la substance seconde, l'homme. Il y a donc, au plan descriptif, deux grands aspects qui déterminent Pierre. Pierre, sujet de toutes les déterminations, ce qu'on appelle la substance première. Et j'insiste, Pierre, sujet, parce que toute la scolastique dira que la substance, c'est le sujet. Donc, en disant ça, la scolastique reste au niveau des prédicaments. Et Pierre est substance seconde, ce sera l'autre aspect de la scolastique qui dira que pratiquement l'essence de Pierre, substance seconde. Je dis, tout ça c'est très bien, c'est le point de vue descriptif, mais je n'explique pas l'unité qui existe dans Pierre existe. Pierre est. Et cette unité n'est ni la substance première, sujet, ni la substance seconde, homme. Il faut donc qu'il y ait une source qui est au-delà de la substance première et la substance seconde. Et cet au-delà, c'est la substance principe et cause, selon la forme de ce qui est. Et là, je suis au niveau métaphysique, au niveau de la philosophie première. Je suis au niveau de la philosophie première dès que je saisis le principe propre de ce qui est. Quand je décris, je ne suis pas encore au niveau scientifique. Quand je saisis un principe, je suis au niveau scientifique. Puisque c'est grâce au principe que je peux saisir une connaissance nécessaire. C'est pour ça que l'induction et la porte à la science, c'est la porte dorée de la science. Parce que si je ne saisis pas de principe, je ne fais que décrire. Décrire, c'est très bien, c'est de la fémologie. La fémologie décrit. Elle décrit les choses intérieures, elle décrit les choses extérieures. C'est très artistique. L'artiste décrit. L'artiste n'analyse pas, il décrit. Et s'il a suivant qu'il a plus ou moins de talent, il décrit avec plus ou moins d'habileté. Un artiste qui a le sens critique, quand il voit quelqu'un, il voit tout de suite l'anatomie dominante. Ah, il a une bouche étonnante. Et il montrera ça. Il a des yeux, comme j'en ai jamais vu. C'est un cyclope, il n'a qu'un œil. Alors il mettra ça en fait, il décrit. Il décrit, mais d'une manière, vous voyez, qui n'est pas du tout une description banale. C'est une mise en lumière. Donc, il formalise la description. Il met dans la description, en lumière, un point. Mais au niveau descriptif, au niveau visible. Il ne saisit pas l'invisible. Il ne pourrait plus le montrer. Il ne pourrait plus le représenter. Il ne pourrait plus le dessiner. L'invisible est au-delà. C'est le passage de l'art à la philosophie. L'art reste descriptif, mais une description artistique, c'est-à-dire une mise en valeur de ce qui fait l'unité. Tandis qu'un nom, quelqu'un qui n'est pas artiste, accumulera. L'artiste n'accumule pas, parce qu'il saisit ce qui va être toute la lumière, et qui va donner l'unité. Le philosophe, lui, saisit le principe, l'au-delà de la description. Et pour saisir l'au-delà de la description, il y a une induction. Le passage de l'expérience à la cause. C'est ça toute la difficulté en philosophie. Hein. C'est là où on saisit l'intelligence intus legere. Lire en profondeur, et non pas lire de l'extérieur, mais lire en profondeur. Donc le passage de la substance première à la substance seconde se fait parce que j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'être ? Quelle est la cause selon la forme de ce qui est ? Et qui va rendre raison de cette dualité. De cette dualité que je constate. Pierre en tant que sujet de toutes les déterminations. Pierre en tant qu'homme. Donc ça, j'espère que vous voyez bien. Une fois que je saisis la substance comme principe, je la distingue de toutes les autres déterminations. Donc la substance est distincte du sujet. La substance n'est pas le sujet. Elle rend raison du sujet. La substance n'est pas la substance seconde. Elle rend raison de cette substance seconde. Elle n'est pas la qualité. Elle n'est pas la quantité. Elle n'est pas la relation. Mais qualité, quantité proviennent de la substance première. Sauf, je vous avais dit, et nous le verrons bientôt, sauf la relation. La relation n'est pas immédiatement dépendante de la substance. Alors, vous voyez, pour la relation, c'est curieux, il y a quelque chose d'analogue avec la puissance pour le vivant. Parce qu'il y a un fondement. Toute relation n'est pas immédiatement reliée à la substance. Quand j'induis l'âme, seconde grande induction, quand j'induis l'âme, je suis au niveau de la recherche du vivant, et non pas de ce qui est. Je pars de la diversité des opérations vitales et de leur unité. Toujours. Hein. L'induction se fait toujours par l'unité. Que je constate. Je constate en moi que je peux manger et que je peux penser. Ordinairement, je ne fais pas les deux choses en même temps. Quand vous mangez, votre pensée ralentit un tout petit peu. C'est pour ça que c'est plus difficile d'écouter la lecture du réfectoire. Et que le lecteur doit tout le temps réanimer l'intelligence de tous ceux qui mangent. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de force. Parce que s'il lit de façon banale, tout le monde dormira. S'il lit avec force et conviction, il réveille. Au bon moment, il met en lumière les choses qui peuvent dépasser. Ça, c'est tout l'art de celui qui lit au réfectoire. Non, c'est ça le point de vue important, c'est que c'est difficile de faire simultanément deux opérations aussi extrêmes. Manger et penser. Et pourtant, en tant que moine, on vous demande de faire les deux. Vous dites, j'en ai soupé. Parce que justement, c'est pas comme ça de faire les deux en même temps. Bon, et pourtant, c'est les deux, on doit faire les deux en même temps. S'habituer à ça. Avoir une oreille qui écoute, et puis une main qui sert à manger autant que possible. Bon, alors, j'induis l'âme. Je l'induis comme cause. Cause radicale. J'ajoute tout de suite ça. Cause radicale, selon la forme du vivant. Et quand je dis radicale, c'est parce que pour trouver la raison directe de la pensée et de la nutrition, je suis obligé de poser une puissance. Tandis que je ne la pose pas, sauf pour la relation. Quand il s'agit de l'être. Alors, la raison profonde, c'est quoi ? C'est que, quand il s'agit de la vie, les opérations vitales sont immanentes. Tandis que les déterminations dans l'ordre de l'être n'ont pas la même relation entre la substance et elle-même. autrement dit, la relation entre la qualité et la substance n'est pas la même que la relation entre la pensée et l'âme. Alors, on va essayer de comprendre ça. Je pose le problème, je constate ça, c'est comme ça que ça se fait. C'est curieux. Dans l'ordre de l'être, la division, la séparation, la distinction entre substance et qualité est une distinction beaucoup plus verticale, beaucoup plus absolue que celle qui existe entre pensée et âme. Beaucoup plus radicale. Et en même temps, beaucoup plus immédiate. Parce que, au point de vue de l'être, la substance est première, la qualité est seconde. Mais la qualité est toute relative, par elle-même, à la substance. En raison même de sa détermination. En raison même de ce qu'elle est. Elle est toute relative à la substance. Ne peut exister que par la substance, dans l'ordre de l'être. Et donc le lien entre qualité et substance est immédiat, pas d'intermédiaire entre les deux. Et ceci en raison même de l'être, en raison même de la détermination, le lien entre la cause formelle et l'être. L'être est immédiatement déterminé et implique cette détermination immédiate. C'est pour cela que la matière ne peut pas être un principe propre de l'être. Tandis que la matière peut être un co-principe du vivant. Vous parlez de la matière vivante. C'est pas hérétique de parler de la matière vivante. Vous ne pouvez pas dire la matière cause pas. C'est très curieux ça. Ça, c'est l'être qui me fait comprendre ça. C'est que la détermination, c'est un mode de l'être. Tout de suite. L'être est déterminé. Est déterminé dans une détermination radicale qu'est la substance. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la vie, l'âme est saisi comme principe fondamental. Et c'est grâce à cela que l'âme peut être aussi cause d'être. Parce qu'elle est principe radical. L'âme unit la vie et l'être. Principe radical de vie et principe propre d'être. Elle est substance. Donc, elle fait le lien entre les deux, entre l'être et la vie. Mais pour pouvoir faire le lien entre l'être et la vie, elle n'est pas immédiatement source propre de mes diverses opérations vitales. Il faut qu'il y ait entre les deux une puissance comme principe propre de ces diverses opérations vitales. Alors, c'est la complexité du vivant. Le vivant est beaucoup moins simple que l'être. C'est la complexité du vivant qui exige de poser à la fois un principe radical et un principe propre. Oui.
Est-ce que c'est possible que la différence entre la cause formelle, un petit peu justement de Metaxud, hein, la cause efficiente, puisque les puissances sont regardées dans l'ordre de l'efficience.
Tout à fait, aussi. Mais en premier lieu, c'est ça, je crois. Oui, c'est la complexité du vivant. Parce que dans la complexité du vivant, oui, c'est ça qui est très curieux dans l'âme. Hein. Parce que je peux dire que l'âme, principe radical du vivant, des opérations vitales, est principe propre d'être. Votre âme est substance. Et elle est en même temps principe radical de vos opérations vitales. Donc, elle a comme une double fonction. Vous ne pouvez pas dire ça de la substance. La substance, elle est simple. L'âme aussi, elle est simple. Elle est principe, donc elle est simple. Mais elle est simple dans une complexité par rapport au vivant. Ce que vous soulignez là aussi, c'est très juste, vous voyez, comme conséquence. Comme conséquence, l'âme est principe radical au niveau de la détermination. Et comme le vivant et l'opération du vivant est une opération immanente, elle a besoin d'un principe propre du côté efficience. Donc du côté efficience, c'est la puissance. Parce que la puissance, au sens strict, n'est pas principe selon la forme. La puissance demande d'être déterminée. Et elle est déterminée par l'objet. Elle est déterminée par l'aliment. L'objet, la pensée, l'aliment, la puissance végétative. Tandis que l'âme n'est pas déterminée, elle est source de détermination. Mais source radicale des déterminations au niveau des opérations vitales. Est-ce que vous voyez bien ça? Ça fait penser. Il faut y réfléchir petit à petit, ça deviendra lumineux. Mon père, pourriez-vous revenir sur l'identité de signification entre « est » et « être » ? Peut-on identifier ce par quoi une chose est, identifier ce par quoi une chose est ce qu'elle est, avec cette chose elle-même ? Qu'entendez-vous ici par signification ? Oui, on a fait remarquer, on a tout à fait raison de souligner. Dans le langage de la phénoménologie moderne, la signification vient de l'intelligence. Le monde a une signification grâce à l'intelligence qui le connaît. Dans une philosophie réaliste, la signification provient de la réalité elle-même. Mais cette signification s'explicite grâce à l'intelligence. Quand je connais quelqu'un, je ne projette pas sur lui la signification que j'ai de lui a priori. Tandis que pour Kant, les formes a priori sont la signification que je projette sur la réalité. Ce qui fait que je ne connais jamais la réalité. C'est pour ça que le noumen est inconnaissable. Et c'est depuis Kant qu'il y a ça. Hein. On n'a pas dépassé Kant, vous savez. Heidegger ne dépasse pas Kant. Et c'est pour ça que être ne peut être connu que par la pensée. Parce que c'est une forme transcendantale. Être n'est connu que par penser l'être. Et je l'applique à tout ce qui devient. Mais je ne connais pas l'être. Je le connais que par la pensée. L'être ne se dévoile pas à moi. Oui. Tandis que pour nous, notre connaissance reste objective, c'est-à-dire que c'est la réalité elle-même qui détermine et spécifie mon intelligence. Et cette spécification de l'intelligence détermine mon concept, d'où vient la signification. C'est très vrai que la signification est explicite dans la connaissance. Mais cette signification provient de la réalité. C'est pour ça que quand je parle de signification, je parle de quelque chose d'objectif. Tandis que pour les modernes, signification serait prise de façon subjective. Quand je dis, alors, quand j'ai dit que la signification de ceci est, et la signification de qu'est-ce que c'est que l'être, donc la signification de être et de ceci est, est la même. Je ne prends pas du côté de ma connaissance. Si c'était de la connaissance, il y aurait deux modalités différentes de signification. Il y aurait le présent et l'infinitif. Deux modalités différentes d'atteindre, je dirais moi, la même réalité. Parce que justement, la signification de l'être est au-delà de ces deux significations. Elle reste objective. Mais si la signification est purement subjective, à la manière de Heidegger, alors la signification de ceci est, et de qu'est-ce que c'est que l'être, représente deux modalités différentes. Tout à fait d'accord. Mais ça, c'est le langage heideggerien. Et nous avons un langage réaliste. Alors, je sais très bien, on est plongé dans l'idéalisme, dans la phénoménologie. Et on doit se purger de tout cela. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, il peut y avoir des déraillements. Alors, à ce moment-là, vous tirez le signal d'alarme. Père, qu'est-ce que c'est que la signification pour vous ? Pour moi, la signification provient du concept qui est déterminé par la réalité, qui est spécifié par la réalité. Et cette spécification vient de la réalité qui fonde la signification. Est-ce que vous voyez bien ça ? Le lieu de la signification, c'est le concept. Mais le concept, c'est la réalité connue en moi. Et donc, le lieu premier de la signification, c'est la réalité qui détermine mon intelligence. Ce n'est pas subjectif. Ce n'est pas le connaissant, le pensant qui donne des significations. Je vous avais donné ce petit exemple très simple de ces psychanalystes avec lesquels je discutais. Et on n'était pas d'accord justement sur l'objectivité de la connaissance. Tout d'un coup apparaît l'écureuil. Puisque comme on faisait de la psychanalyse, il fallait être dans un lieu qui faisait la compensation de la psychanalyse, c'est-à-dire un lieu très beau, en plein bois. Tout d'un coup, l'écureuil apparaît. Tous on regarde l'écureuil. La querelle philosophique s'arrêtait avec l'écureuil. Voici l'enfant. Et immédiatement, la querelle disparaît. Tout le monde regarde l'écureuil. Après que l'écureuil ait disparu, je dis, qu'est-ce que vous avez vu ? Mais un écureuil. Tiens, c'est curieux. Moi aussi. Je dis, tiens, qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais la signification d'écureuil, c'est pas vous. C'est l'écureuil. Vous l'appelez écureuil. Et moi aussi, je l'appelle écureuil. Donc, il y a quelque chose d'objectif. Alors là, toute la belle discussion disparaissait. La signification du mot écureuil provenait bien de mon concept, c'est sûr, mais en réalité, provenait de la réalité. La signification de l'univers, c'est bien moi qui la donne. Et si l'univers n'existait pas, il n'y aurait pas de signification de l'univers. Bon, ça c'est la réponse. Ah, signification. Deuxième réponse. C'est très juste. Si je prends des réalités particulières, comme Pierre. Pierre a sa détermination de homme. Or, humanité et homme n'ont pas la même signification. Humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. Hein? Blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Or, la signification de blancheur est une formalisation de la signification du blanc. C'est donc bien formellement la même signification. Formellement la même signification. Mais blanc implique quelque chose de plus que blancheur. Je crois que ça, on peut tous comprendre ça. Comme homme implique quelque chose de plus que humanité. L'humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. Donc à ce moment-là, je ne prends que la formalité de homme. Mais homme implique aussi un corps qui n'est pas dit dans l'humanité. L'humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme, c'est-à-dire en tant qu'il est raisonnable. C'est pour ça que le journal Humanité, c'est pas homme, c'est humanité, c'est par quoi l'homme est raisonnable. Et donc l'humanité ne prend que ce qui est raisonnable dans l'homme. Vous avez toujours remarqué ça. Ce par quoi l'homme est homme. Donc l'aspect formel de homme. De temps en temps, vous amusez de voir que l'humanité ment toujours. Parce que le journal. Parce qu'il ne devrait prendre que ce par quoi l'homme est homme. Donc uniquement l'aspect raisonnable. Alors, c'est pas toujours ce qui arrive. Parce qu'ordinairement, c'est l'aspect matériel. Quand vous lisez l'humanité, hein, vous la lire de temps en temps. Quand vous lisez l'humanité, vous voyez que ce n'est pas tout à fait ce qui est raisonnable. Pour la vendre aux petits copains, il ne faut pas l'acheter, parce que l'acheter, c'est servir au parti. Mais on la prend aux petits copains quand ils la jettent. Alors on la lit, et on essaie d'analyser. Bon. Quand je dis être et ce qui est tout à fait particulier aux notions transcendantales, c'est que l'aspect concret et l'aspect abstrait signifient rigoureusement la même réalité. La même signification. Bon et bonté. Je peux dire aussi bien Dieu est bon, Dieu est la bonté. Je peux dire que Dieu est et je peux dire que Dieu est l'être. Je peux dire que Dieu est vrai et que Dieu est vérité. Toutes les notions premières, parce qu'elles sont premières, l'abstrait et le concret ont la même signification. Parce qu'il n'y a pas de matière. Tandis que dès que je suis en face de notions qui impliquent la matière, l'abstrait et le concret n'ont pas tout à fait la même signification, mais ont la même signification formelle. Pas matériel. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que je peux dire que la signification de « est » et de « être » est rigoureusement la même. Tandis que la signification de « homme » et « humanité » n'est pas rigoureusement la même. Elle est formellement la même. Blanc, blancheur, la signification de blancheur est formellement la même que celle que blanc, mais n'est pas tout à fait la même. Parce que blanc implique le blanc du mur. Tandis que blancheur n'implique pas du tout le mur. Donc c'est formellement ce par quoi le blanc est blanc. Ah. Hein, ça vous fait... Ça creuse. Les temps d'arrêter. Alors, pourtant, simplement pour montrer que dès que je découvre la substance, immédiatement, je découvre que toutes les autres déterminations sont secondaires. Même la substance première, elle est secondaire. Même la substance première, seconde, elle est secondaire du point de vue de l'être. La qualité, la quantité. Mais la différence, c'est que substance première et substance seconde sont secondes, mais substantiellement. Parce que le sujet, Pierre est un sujet. Pierre est sujet de toutes les autres déterminations. Quand je dis ça, je montre une fonction de Pierre. Or, la fonction touche personne. La substance joue le rôle de fonction. La substance joue le rôle de principe d'intelligibilité. Voilà les deux grands aspects de la substance. Et la scolastique décadente